Et bonjour, vous êtes sur l'antenne d'Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Aujourd'hui, ce n'est pas Joël qui s'occupe du journal, mais cela ne change rien. Nous avons donc faire comme d'habitude. Tout de suite les prérogatives de l'ARCOM, évidemment. Nous avons trois moyens de nous écouter avec tout de suite la bande FM 91.3 dans toute la Gironde. Nous avons aussi la web radio, le site internet avec évidemment le replay de toutes les émissions en podcast, que ce soit les émissions bénévoles ou ce journal qui sera rediffusé aussi à 15h et à 18h. Et enfin, nous avons le DAB ou DAB+, évidemment, la radio numérique terrestre qui vous permet de nous écouter dans toute la métropole girondine, enfin dans la métropole bordelaise. Tout de suite, on va aller un peu vite, mais c'est pas grave. Le sommaire, je déclinerai quelques brèves spéciales élections, puisque de toute façon c'était hier. Et ensuite, nous recevrons Romain Nuel qui va nous présenter le nouveau numéro de l'Écho des Collines, le numéro du mois de mars, qui est le 300e numéro de ce média. Donc félicitations à l'Écho des Collines. Et nous allons donc ensuite, nous passerons évidemment la petite musique et midi 30 nous en aurons fini. Tout de suite, nous allons passer aux brèves et donc nous allons commencer avec les municipales, puisque de toute façon il n'y aura que les municipales sur ces brèves. Nous allons parler du taux de participation, puisqu'en 2020 il était de 38,77%. Au premier tour, cette année, c'est 48,90% des Français qui se sont déplacés pour aller déposer leur bulletin dans l'urne. C'est toujours moins qu'en 2014 où c'était 63,55%, mais c'est quand même une amélioration. Rappelons qu'il est important de voter et je vous encourage à y aller au second tour. Du côté des résultats dans la métropole bordelaise, avant d'entamer la rive droite, parlons de Bordeaux elle-même. Le maire sortant Pierre Urmic est en tête avec 27,68% des voix. Thomas Cazenave arrive en deuxième position avec seulement 2,10% de retard. Troisième, Philippe de Sertine est qualifié au second tour avec 20,20%. Nordine Raymond de la France Insoumise échoue en quatrième place avec 9,36% et n'est donc pas qualifié au second tour. Des alliances sont encore possibles et le paysage bordelais n'est pas encore définitif, même si Philippe de Sertine a déjà annoncé qu'il ne s'allierait pas avec Thomas Cazenave. Concentrons-nous maintenant sur la rive droite et ses communes. À Florac, Jean-Jacques Piobro remporte l'élection avec 54,12% des votes. Il a 22% d'avance sur son plus proche poursuivant, Xavier Monod-Ludy. Il repart donc pour un troisième mandat à la tête de la ville. Continuons de remonter la rive droite en s'intéressant à ce nom. Le maire sortant Jean-François Aigron est immédiatement réélu avec 53,19% des voix. Il est largement devant la liste de Florence Damé qui est à 28,73%. Aigron repart donc pour 6 ans à la tête de la commune. À Lormont, il y aura un deuxième tour puisque Jean Touzeau quitte la mairie puisqu'il ne s'est pas présenté. Et Philippe Kertimon, c'est bon, c'est pas facile, de l'Union de la Gauche est favori pour le remplacer avec 48,73%. Derrière, la liste citoyenne de Taner Oskozar est qualifiée avec 23,86% et troisième, Serge Bluge à 19,17%. À Bassens, la victoire est plus qu'évidente puisqu'Alexandre Rubio a remporté l'élection avec 79,31% des voix face à Florane Gourceau qui ne repart qu'avec 20,69%. L'élu divers gauche repart donc pour un deuxième mandat. Enfin, à Carbon-Blanc, c'est la liste citoyenne de Johan Giacometti qui est élu dès le premier tour avec 57,05% des voix. La liste divers gauche de Patrick Labesse récolte 42,95% des voix de cette élection et n'est donc pas réélu. Voilà pour ce petit tour des élections dans Bordeaux et sur la rive droite. Et nous allons donc maintenant passer à notre interview de la journée qui sera donc sur l'Écho des Collines avec Romain. Bonjour Romain.
Bonjour Hugo.
Vous venez donc nous présenter l'Écho des Collines de ce mois-ci qui est donc le 300e numéro. Quel est le dossier principal sur ce numéro ?
Exactement, merci de nous accueillir pour évoquer ce 300e numéro du coup de l'Écho des Collines. Le dossier donc c'est sur la bande dessinée, donc ça s'appelle Les femmes s'affichent. Donc en fait le sujet l'idée du dossier part en fait du festival d'Angoulême, qui est un festival très réputé nationalement et même internationalement. De la BD qui est annulée, notamment parce qu'il y a beaucoup de. Il y a eu beaucoup de plaintes par rapport à du sexisme, tout ça, à l'intérieur du festival où bah, y a pas mal d'éditeurs qui se comportaient comme des cow-boys, quoi. En gros, c'est ce qui est décrié et c'est assez terrible pour les autrices de bande dessinée. Donc en fait, ça, ce festival qui regroupait toutes les bandes dessinées et qui mettait en avant bah, les grands noms, Astérix, tout ça, eh bien, en fait, ce festival a été annulé et bah, ça a éclaté en plusieurs festivals un peu partout, dont sur la rive droite, où il y a eu un festival interconnecté avec deux autrices qui se sont rassemblées. Donc c'était dans plusieurs librairies de la rive droite et c'était beaucoup plus proche des lecteurs, tout ça. Donc c'était assez intéressant. Et du coup, on a décidé de prolonger le thème du dossier avec plusieurs librairies de la rive droite. Donc on a Fargue Saint-Hilaire, Créon et La Traîne, où on est allé voir du coup pour un peu enquêter sur... quelle est la place des autrices dans la bande dessinée, même des personnages féminins, tout ça, dans les librairies locales.
D'accord. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pu en conclure rapidement? Est-ce que vous voulez parler peut-être des articles que vous avez pu écrire vous-même dans ce dossier, dans ce grand dossier qui effectivement fait quand même plusieurs pages, hein, qui est un beau dossier?
Ouais, c'est un très beau dossier. La plupart des personnes présentes dans le comité de rédaction ont leur propre article, donc tout le monde y a contribué. Donc le résultat, c'est que la bande dessinée est toujours un rayon qui fonctionne extrêmement bien dans les librairies, mais la bande dessinée féminine, si on peut la catégoriser comme ça, en tout cas les autrices, tout ça, bah, ça a encore... de ce qu'on me disait à Fargue, ça représente encore que 25 à 30% des ventes et de la place dans le rayon, ce qui est encore en dessous de la proportion qu'il y a, même s'il y a une proportion plus basse d'autrices que d'auteurs. Ça reste quand même une proportion qui est plus difficile à vendre. Et après, l'exemple le plus frappant donc, qu'on m'avait donné à Fargue, c'était la comparaison du prix Femina, qui avait été vendu à seulement quelques exemplaires alors qu'elle le mettait en avant dans les rayons, tandis que le Astérix, c'était dans un carton par terre et elle l'a vendu à une bonne vingtaine, quoi. Donc c'est que malgré le travail des libraires, il y a encore un travail à poursuivre sur la vente de la BD féminine, quoi.
C'est assez terrible comme anecdote, là, le Astérix, quand même. C'est
un peu violent.
C'est quand même assez triste. Donc vous avez parlé de festivals qui avaient pu faire leur apparition donc avec l'éclatement du festival du célèbre festival d'Angoulême. Là, je vois que dans le dossier, il y a le festival Fête des Bulles. Est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus rapidement? Pardon. Il y a aussi donc votre article. Alors du coup, vous aviez un article sur comme vous en avez parlé, sur la place de la BD féminine dans une à Fargue Saint-Hilaire, vous êtes déplacé. Est-ce que y a quelque chose... Déjà, est-ce que quand on vous a proposé ce thème-là, comment vous êtes dit, comment je peux l'aborder? Est-ce que...
Bah, en fait, il y a un aspect aussi qui est très agréable dans l'écho des collines, c'est que l'écriture est entièrement libre et non retouchée. Déjà il y a cette indépendance là qui est agréable, et en plus les librairies qu'on est allé voir pour la plupart sont indépendantes aussi, ça fait partie d'un réseau de librairies indépendantes qui est présente sur la rive droite, donc c'est intéressant en fait d'avoir un reportage à faire comme ça où moi-même je suis indépendant et également la personne en face avec qui je parle est indépendante et me donne ses chiffres de vente, tout ça sans aucun souci. Et ouais, cette indépendance là elle est intéressante pour aborder ce genre de sujet où on a besoin de petits chiffres, tout ça, de ressentis de la part de cette libraire là, quoi.
Parce que du coup, vous dites qu'il y a peut-être un petit peu plus d'honnêteté, on n'essaie pas de cacher, de dire non mais regardez, nous on travaille pour les femmes, on essaie de faire des efforts alors que c'est faux et que c'est juste de la com. Là, il y a une vraie honnêteté. Hein.
Bah oui, parce que de toute façon, ça se voit tout de suite. On voit la mise en rayon déjà. Là, il y avait beaucoup de littérature féministe mise en avant déjà de base. Donc tout ce qu'elle me disait, c'était en accord avec ce que je voyais. Donc il n'y avait aucun souci par rapport à ça. Mais c'est vrai que peut-être que dans une librairie qui n'est pas indépendante, on va essayer de jouer la carte du j'essaie quand même, tout ça. Bon, oui, là, elle le disait qu'elle essayait, et puis c'était prouvé aussi par sa mise en rayon, par exemple.
C'est une très bonne chose, oui, oui. Pour une fois, de ne pas avoir juste un peu de communication, d'avoir quelqu'un qui agit vraiment. Vous, on a donc parlé un petit peu de ce dossier, des différents festivals qui ont été couverts, des différents thèmes qui ont été couverts. Ce dossier est couvert par, juste après, un livre sur le thème des femmes, sur le thème de la condition féminine, pardon. Est-ce que vous avez éventuellement quelque chose à dire dessus? Livre qui s'appelle « Naître fille » d'Alice Dussautour.
Exactement. La place de la littérature dans le média est quand même assez importante. Il y a souvent des livres mis en avant parce qu'il y a c'est de l'intérêt aussi de la plupart des personnes composant le comité de rédaction. Donc ça va de soi et c'est bien qu'ils parlent de leur passion. Donc là c'est la thématique donc naître fille, c'est le concept du livre, c'est cinq femmes de cinq nationalités différentes, donc France, Népal, Afghanistan, Kenya et Mexique, donc cinq coins de la planète. C'est un livre qui fait un constat, oui, de la condition féminine à travers le monde, où on se rend compte que peu importe les pays, toutes les femmes ont des freins par rapport à leurs conditions, à des degrés différents, parce que par exemple en Afghanistan, avec le retour des talibans, c'est incomparable avec la France par exemple, mais en France il y a beaucoup de cas qui sont encore présents au vu de la condition. Et après ça revient sur pas mal d'événements, donc par exemple au Népal il y avait la statistique où 37% des filles sont encore mariées avant l'âge légal de 20 ans. Après il y avait le cas du Mexique qui est intéressant parce que les femmes elles ont une autre place dans la société, la présidente du Mexique est une femme déjà, et puis il y a beaucoup plus d'acteurs féminins au gouvernement, et il y a aussi ce 9 mars 2020 où toutes les femmes ont décidé de faire grève dans tout le pays. Grève mobilisée, toutes les femmes, et c'était arrivé aussi, c'est pas dans le livre ça, mais en Islande, une fois dans les années 70, et toutes les femmes s'arrêtent de bosser. Okay. Et ça a un certain impact, oui, du coup, qui est décrit dans le livre. Et donc, c'est un panorama de tous ces pays, donc je répète, Kenya, Mexique, Afghanistan, France et Népal, qui est super bien fait et super intéressant à suivre.
Ouais, effectivement, ça a l'air très intéressant, puis surtout, ça permet peut-être de mettre en lumière des cultures qui sont moins mises en avant. Je veux dire, on ne parle pas tous les jours du Népal, par exemple.
Non, c'est sûr.
Alors que pourtant, la stat est absolument affreuse. Hein, les 37% mariés avant l'âge légal, c'est quand même assez grave.
Oui.
Surtout que, je pense, sans trop m'avancer, qu'on est sur des mariages qui sont plus imaginés par la famille, plus que par la femme elle-même. Mais ça permet peut-être aussi, même par exemple pour le cas de la France, de mettre en avant des choses, des problématiques de femmes qui sont peut-être plus discrètes ou du moins plus moins abordées, et pas juste de dire les femmes elles sont moins payées et dans la rue elles sont peut-être plus sujettes à certains types de remarques ou comme ça. Ça va peut-être plus en profondeur et c'est ma foi très bien de couvrir
surtout. Oui, même en termes d'avancée aussi sur le féminisme, c'est intéressant aussi de voir un peu à quel point les femmes dans certains pays sont en difficulté. Quoi.
Oui, et pourtant, il y a des cas où même si elles sont en difficulté, il y a comme le Mexique, oui, comme vous avez dit, où malgré les difficultés, elles peuvent avoir une grande place, et, ou alors en Islande, avec l'anecdote où tout le monde décide de faire grève parce que et ça fout tout le pays à l'arrêt, et ça vient montrer que malgré le fait que s'il y a certains pays où elles ne sont pas respectées, en fait, si elles décident de juste tout arrêter, fonctionne plus, quoi.
Ouais, ça met en avant une certaine culture. Je sais pas si en France ça pourrait se passer, une grève de femmes mobilisées. Je pense pas que ce serait fait.
Je
pense que c'est quand même plus de 90% du coup des femmes à chaque fois. Il n'y a pas 100% évidemment.
Oui, évidemment.
Mais qui s'arrête de bosser, c'est quand même hyper fort, surtout que le Mexique, je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais c'est énorme.
Oui, le Mexique, c'est, bah, je peux faire la recherche très rapidement. Le nombre d'habitants au Mexique en général, on est à combien d'habitants? Je ne suis pas du tout en train de meubler le temps que ça charge. Voilà. Nous sommes à 131 millions d'habitants.
Voilà.
Donc, bon, imaginons, allez, on divise par deux pour faire simple. On est à environ 65 millions de personnes en grève. C'est la France.
Voilà.
C'est la France en grève.
La France en grève.
La France entière, mais la France entière en comptant les enfants, les personnes à la retraite et tout. Donc, ça fait quand même pas mal de monde dans les rues. Passons maintenant, nous avons l'écho des communes, partie qui va se concentrer sur certaines villes. Là, on a Créon, on a La Benoge. Est-ce que vous avez peut-être un petit quelque chose à dire dessus?
Oui, exactement. Donc, l'écho des communes sur Créon, La Benoge et Saint-Loubès, juste
exact.
Derrière. Donc, je suis présent sur les trois articles, donc je peux en parler. Donc Créon, c'était aussi sur la librairie Fauve qui était donc mise en avant deux fois dans ce dossier, enfin dans ce magazine, pardon. Mais là, c'était pour l'accueil de Perrine Ostry, qui est une écrivaine bordelaise, je crois qu'elle vient de Villeneuve-d'Ornon.
Ouais.
Et donc qui était donc là pour une rencontre dédicace dans la librairie de Créon pour son second, enfin son, la, je sais pas trop comment, c'est son troisième livre, je crois, Captif. Donc c'était, on a fait une petite interview qu'on a filmée et qui est également présente sur le compte Instagram de l'Écho des Collines.
Ouais.
Donc très intéressant parce que c'est quand même une écrivaine phare de ces derniers mois. Puisqu'elle est restée, je crois, 11 mois coup de cœur de Cultura, dans les Cultura de Bordeaux. Donc,
oui.
C'est. Ouais, non,
oui,
c'est.
C'est une belle stat, quand même.
Ouais, ouais. Et puis, elle est très, 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 très gentille, hyper intéressante, et le livre est très bon.
Ouais.
Donc, il y avait ça à mettre en avant, du coup, dans la librairie de Créon, qui accueille régulièrement, du coup, des écrivains, écrivaines, et qui organise pas mal de rencontres, donc très intéressant. Ensuite, on a eu La Benoge, donc c'est un quartier de Bordeaux où l'écho des collines continue de s'insérer, parce que là, il va y avoir, dans le prochain article, je tease un peu, enfin dans le prochain magazine, un article sur l'espace Myriam Makeba, qui a été inauguré il y a deux semaines.
Ouais.
Et donc là, c'était sur une animation... sur la recherche du goût, donc assez philosophique sur le fait que le goût peut rassembler, et c'est vrai que bah, ça s'est avéré efficace parce que les gens parlaient assez facilement de la puissance que peut avoir le goût sur des souvenirs, tout ça. Je pense à... j'ai plus son prénom malheureusement, mais c'était un gars originaire de Mauritanie qui
ouais.
Goûtait un bissap, donc c'est une boisson à base d'hibiscus qui vient de là-bas et qui évoquait tout ce que ça lui procurait comme émotion et souvenir, et c'était assez fort, ça faisait penser à toute sa famille qui est restée là-bas, tout ça.
Ouais.
Donc c'est une animation qui était organisée par une association et une comédienne qui s'appelle Morgane Audouin et qui était très sympa, du coup on a décidé de mettre en avant.
Ouais.
Et pour finir, l'orchestre de Saint-Loubès, donc l'orchestre de la Lyre, 135 ans d'existence tout de même. C'est pas
ça
négligeable.
Ça nous ramène quand même c'est 1800, quoi.
C'est ça. Hein. 26 mars 1891, donc ils vont bientôt fêter les 135 ans.
Dans 10 jours.
Ouais. Ouais, donc assez fou, donc hyper intéressant aussi parce que c'est une asso qui est très très importante localement parce qu'elle suit tous les événements d'une municipalité, donc ça du carnaval aux commémorations du 8 mai 11 novembre. On est sur une asso ouais, où il y a beaucoup beaucoup de musiciens de tous les âges. Et puis c'est une asso aussi qui donne régulièrement des concerts de nature différente. Ça va aux musiques de films. Dernièrement, c'était les musiques latines, tout ça. Et c'était très intéressant de les suivre aussi.
C'est vrai que là, on voit, vous parlez du coup de musique de film, on le voit dans l'article, hein, qu'il y a Le Seigneur des Anneaux et Pocahontas qui sont donnés en exemple, ou des comédies musicales comme West Side Story ou, plus français, Starmania. Effectivement, on a quand même 135 ans. J'essaie de le processer, mais c'est vrai que 1881, ça commence vraiment à faire beaucoup, quoi.
Mais en fait, oui, mais pas tellement, parce que en gros, ça correspond, si j'ai bien suivi, parce que je vais pas me proclame historien de ce genre-là, mais en gros, ça correspond à une période fin 19e siècle où les associations d'orchestres fleurissent et il y en a de plus en plus. Donc, il y en a quelques autres, en gros, en France qui datent aussi de 130 ans à peu près,
ouais.
Mais qui soient restés aussi stables et dans le temps,
ouais.
Pas tellement, ouais.
Oui,
parce qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté et puis repris. Et là, ça fait vraiment 135
ans. D'accord.
Et même sur les 20 dernières années, il y a un nombre de musiciens qui restent stables dans l'association et c'est assez remarquable.
Oui, c'est très très remarquable. Ouais. Surtout avec les temps qui courent, effectivement, c'est assez remarquable qu'une association reste à flot et qu'il n'y ait pas au moins une baisse. Quelque
oui,
chose.
Oui. Et surtout qu'on parle d'un orchestre. Enfin, c'est pas... Je vais un peu caricaturer, mais c'est pas oui bonjour, je veux jouer tel instrument.
Oui.
on va te mettre là entre non.
Bonjour, c'est,
ça
jouer de la
ça
basse,
nécessite. Oui, voilà, ça nécessite beaucoup de pratique, tout ça. Et c'est très bien décrit dans l'article.
Ouais.
Mais où voilà, faut savoir lire la musique, tout ça.
On voit en plus que c'est ça reste quand même ouvert, même si vous dites que voilà, c'est pas juste on se ramène et bonjour, je sais jouer de quelque chose ou quelqu'un. Il y a écrit cette phrase que je vais me permettre de lire. Malgré cette diversité géographique qui s'accompagne, pas facile de lire apparemment. Cette diversité géographique s'accompagne d'une véritable mixité intergénérationnelle de 13 à 80 ans.
Oui.
Ça veut dire quand même qu'il y a quand même une sacrée sacrée marche. Je trouve ça assez impressionnant que on puisse avoir genre des gens très jeunes qui sont très talentueux et qui tout de suite savent très jeune jouer très bien un instrument au point de pouvoir rentrer dans un orchestre et qu'on ait des gens très expérimentés qui restent là pour les guider. Je trouve que c'est quelque chose d'assez bien.
Ouais. Et puis c'est aussi beau aussi de voir qu'ils s'unissent tous pour des concerts de sujets. Très divers, parce que c'est vrai qu'une personne de 80 ans sur Le Seigneur des Anneaux, se dit, un peu, on est un peu curieux quand même, alors
oui.
qu'il y a plutôt des thèmes où ça va être plutôt les jeunes, on va se dire, ah, c'est curieux, ils vont s'intéresser.
Oui, voilà.
Mais c'est une mixité qui est intéressante.
C'est vrai que c'est très intéressant de ce point de vue-là. C'est vrai que ça doit permettre une grande diversité musicale, puisque finalement, les jeunes connaissent ça et peut-être pas les plus âgés, c'est pas grave, ils vont leur faire découvrir et inversement, quoi. Et très intéressant, j'admets. Dans 10 jours, peut-être qu'on célébrera leur anniversaire sur O2, on ne sait pas, peut-être qu'on leur fera un petit coucou. Est-ce qu'il y a un autre article sur lequel vous avez travaillé vous-même, duquel vous voulez parler, ou est-ce que vous avez quelque chose à dire, puisque là on a un portrait, on a une petite page économie sur les vignerons. Et évidemment, la page d'histoire qu'il y a à chaque fois.
Donc, la page d'histoire, c'est une chronique, c'est une page qui est écrite par Daniel à chaque fois, donc mensuellement. Donc là, avec les terribles inondations qu'il y a eu dans la Gironde, le sujet s'y prêtait sur... donc ça s'appelle « Rebelles et capricieuses Garonnes », donc sur... sur historiquement comment la Garonne se comporte. Et donc, c'est assez intéressant de voir que l'évolution des températures, du débit, tout ça, de toutes les infos comme ça qu'on a des siècles d'avant, même si on ne peut pas tout avoir, malheureusement, mais c'est normal. Mais donc, je pense aussi à cet hiver 1708-1709 qui est décrit dans cet article que je vous conseille de lire parce qu'il est très bien écrit. C'est un hiver important. Il y a même certains historiens qui font un lien entre cet hiver-là et 1789, donc à la fin du siècle, parce qu'il y a eu d'énormes dégâts. Et à Bordeaux, il faisait entre -20 degrés et -24. qui est assez difficile à imaginer quand même aujourd'hui. Mais,
c'est-à-dire que de un, c'est difficile à imaginer, et de deux, il n'y a pas l'isolation. Là, c'est ça. C'est-à-dire que c'est 24 ressentis, c'est encore pire.
Ouais, et du coup, moins 24, la Garonne, elle est gelée. Et ça aussi, c'est quand même... Donc bon, évidemment, il n'y a pas de photos, tout ça, mais c'est rien qu'à s'imaginer quand même... Bordeaux déjà en 1700 et puis en plus moins 20 et la Garonne gelée, c'est assez fou, et je trouve que ce retour à l'histoire après les inondations du coup qu'il y a eu, c'est hyper intéressant, je trouve, de cette démarche là moi j'apprécie beaucoup.
Effectivement, c'est très intéressant, surtout de revenir si loin là pour trouver un hiver assez spécial. C'est que 24 degrés, c'est quand même, faut se l'imaginer, hein. Maintenant qu'on a couvert, est-ce qu'il y a peut-être un reportage que vous avez pu faire qui apparaîtra dans celui du mois prochain ou peut-être sur le site, on ne sait pas, que, dont vous voulez parler pour qu'on conclue cette interview?
Oui. Alors, en termes de reportage, donc, comme je l'ai déjà dit, il y a l'espace Myriam Makeba qui a été inauguré donc, par... Le maire, je ne sais pas si je peux dire le maire ou pas, donc Pierre Urmic, mais on verra. Oui. Du coup, on est entre les deux tours, donc je ne sais pas trop comment
le
qualifier.
Au moment de la présentation, c'était le maire.
Oui, voilà, ouais. Maire sortant, on va dire.
Voilà.
Mais il y a ça. Après, il y a le festival du journalisme imprimé, où on est passé, du coup, qui était du mercredi au samedi, d'il y a deux semaines.
Oui.
Donc, nous, on était passé le jeudi soir donc pour l'émission Backseat animée par Jean Massier. On a pu voir Usul et les autres chroniqueurs de l'émission.
Et Pierre Urmic
et Philippe Poutou aussi. Enfin, c'était une émission du coup politique, pour ceux qui connaissent pas, qui est d'habitude diffusée sur Twitch. Et donc là, c'était très intéressant parce que c'est un regard nouveau aussi qu'il y a sur l'engagement. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, donc c'était sur la rive droite bordelaise. La salle, je ne sais plus comment...
C'est la salle du bien commun, je
crois. Le bien commun, oui.
La salle du bien commun.
Et ça c'est un article qui pourra paraître sur le site, c'est très intéressant.
D'accord, merci beaucoup Romain d'être venu nous présenter le 300e numéro de l'Écho des collines. Chiffre assez impressionnant, évidemment. Nous allons conclure ce journal en passant évidemment une musique, hein, comme à chaque fois, de Césaria Évora Orchestra, qui passera le jeudi 19 mars en concert au Rocher de Palmer à Senon à 20h30, et avant qui s'occupera d'une sieste musicale à 15h. Chanteuse qui nous provient du Cap Vert et qui va donc amener sa musique locale au Rocher de Palmer. Donc voilà, c'est l'occasion d'assister à un concert nouveau, de découvrir quelque chose. Donc on vous encourage vivement à y aller, et tout de suite on va passer son titre.
São Vicente é um brasileiro. de Gabo poder entrar. Tô aqui pra facar, pra fartar. Hoje é dia de carnaval. Não tô vestindo, mas tu sei qual. Café de Gabo poder entrar. Tô aqui pra facar, pra fartar. Hoje é dia de carnaval. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, já tem guerra e carnaval. Mas vou na mesa se igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, já tem guerra e carnaval. Mas vou na mesa se igual.
Nasce alegria, nasce sabura. Mamca pude fazer ideia. Se na carnaval era baixar.
Não tô vestinha, mas tu sei qual. Café de tabu pode entrar. Coque e bafa, cata, fata. Hoje é dia de carnaval. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, da guerra e carnaval. Mora beza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, da guerra e carnaval. Mora beza sem igual.